VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 14 août 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Plusieurs blessés au Cameroun dans l'explosion d'une bombe dans un bar de Yaoundé. En République démocratique du Congo, des gestionnaires de fonds de lutte contre le coronavirus accusés de mauvaise gestion ont été traduits en justice. En Côte d'Ivoire, l'autorité nationale de la presse accuse les médias de contribuer à l'enlisement de la crise politique. Covid-19, les États-Unis enregistrent plus de 50 000 nouvelles contaminations en deux jours. Le gouvernement promet un vaccin gratuit. Les alliés d'Israël se réjouissent de l'accord entre Abu Dhabi et l'État hébreu. Les réactions sont mitigées dans le monde arabe. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Cameroun, l'explosion d'une bombe artisanale a fait plusieurs blessés à Yaoundé, dans un bar près du marché populaire de Mokolo. Le point avec notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
D'après des témoins, la bombe artisanale a explosé vers 12h temps universel. Des tables, des chaises et une partie du plafond ont été endommagées dans le bar où l'explosion s'est produite. Au moment de la déflagration, seules deux personnes se trouvaient dans cette buvette située au lieu dit Batalonkak, dans le périmètre du marché le plus fréquenté de Yaoundé. Maurice Yonke est le gérant du bar en question.
Directement, quand j'ai senti, je suis sorti pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est même le colporteur qui me montre la batterie en bas de la table.
Un riverain qui a observé la scène juste avant l'explosion dit avoir aperçu un homme déposer un sac à l'entrée du bar.
Il y a un gars qui est d'abord venu avec son sac. Il buvait là. Il voulait acheter une cigarette. Parce que même produit, même là où il a déposé.
L'engin explosif improvisé a été fabriqué à l'aide d'une batterie de moto. Le gouverneur de la région du centre, dont Yaoundé est le chef-lieu, la police scientifique et une équipe de démineurs sont arrivés sur les lieux et exhorté la population à plus de vigilance. C'est la quatrième bombe artisanale qui explose dans la capitale depuis le mois de juin, faisant suite à ces explosions, dont l'une au quartier Emana, non loin de l'une des entrées du palais présidentiel, des fouilles corporelles sur la voie publique et les bouclages inopinés de certains quartiers ont été instaurés à Yaoundé. Les forces de défense et de sécurité recherchent des suspects en possession de drogue, d'armes à feu ou d'engins explosifs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des gestionnaires de fonds de lutte contre le coronavirus accusés de mauvaise gestion ont été traduits en justice, a indiqué l'inspection générale des finances. Le point avec Eddy Issango.
Selon le nouvel inspecteur des finances, Jules Alinguété, la justice congolaise pourra interpeller dans les prochains jours les personnes impliquées dans l'effet de mégestion caractérisée des fonds destinés au Covid-19. L'inspection générale des finances qu'il dirige dépend directement du président de la République qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le 17 juillet, les gouvernements congolais avaient annoncé un audit dans l'équipe chargée de la lutte contre les Covid-19. Cette structure chapeautée par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba et gérée par les ministres de la Santé Teni Longondo, épaulée d'une équipe d'experts dirigée par le professeur Jean-Jacques Muyembe. Le 20 juin, le docteur Muyembe a affirmé avoir reçu 1,4 million de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus, alors que le premier ministre congolais avait déclaré au sénateur avoir décaissé 10,17 millions. De son côté, le ministre de la Santé a déclaré avoir eu la gestion des 3 millions de dollars. La RDC a officiellement recensé 9604 cas de Covid-19 et 238 décès.
Toujours en RDC, une enquête a été ouverte par le parquet de Kolwezi après la mort d'un ressortissant chinois tué dans une attaque contre une fabrique de ciment en construction dans la province de Lualaba. Un ressortissant chinois de l'entreprise Carilou a été tué par balle par des bandits armés qui ont aussi violé son épouse et une congolaise, a déclaré Jean-Marie Chizenga, ministre provincial des Mines. En Angola, José Filomenon dos Santos, fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, a été condamné à 5 ans de prison pour fraude dans le cadre de ses activités à la tête d'un fonds souverain entre 2013 et 2018. Ses trois complices, dont l'ex-patron de la Banque centrale, Walter Felipe da Silva, ont été condamnés à des peines de 4 à 6 ans de prison. Ils sont accusés d'avoir transféré 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. En Côte d'Ivoire, l'autorité nationale de la presse accuse les médias de contribuer à l'enlisement du climat sociopolitique. Au moins 4 personnes sont mortes en 2 jours dans des violences liées à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre. La presse ouvre largement ses colonnes à la propagation de propos outrageants, voire haineux ou à des mots d'ordre insurrectionnel, a déclaré l'ANP. L'attaque meurtrière contre des humanitaires français au Niger paraît avoir été préméditée avec l'objectif de cibler des Occidentaux, selon des éléments de l'enquête française sur l'assassinat de 6 membres de l'ONG Acted avec un chauffeur et un guide nigérien à Kouré dimanche. Les enquêteurs français de la DGSI, la cellule antiterroriste et la police scientifique ont terminé les investigations sur place. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a eu un entretien jeudi avec le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, pour discuter notamment de la crise sur le barrage de la Renaissance éthiopien et de la nécessité d'une volonté politique pour parvenir à un accord. M. Mnuchin a réitéré son soutien à l'engagement du gouvernement de transition à respecter les droits humains, lutter contre la corruption et réformer l'économie du Soudan. L'Union européenne discute avec les autorités algériennes de la condamnation du journaliste Khaled Drareni. Nous suivons avec préoccupation la situation du journaliste condamné à 3 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, a déclaré le bureau du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, rappelant son engagement pour la liberté de la presse. Du fioul a recommencé à s'écouler du bateau échoué depuis 3 semaines au large de l'île Maurice. Le navire appartenant à un armateur japonais s'est échoué le 25 juillet sur un récif à la pointe d'Esny avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord. Près de 1000 tonnes ont souillé les côtes, des espaces protégés avec des forêts de mangroves et des espèces menacées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face à une résurgence des cas de Covid-19 dans plusieurs pays, les efforts se multiplient pour contenir la pandémie. Les États-Unis, pays le plus touché, promettent un vaccin gratuit. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Plus de 50 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées aux États-Unis pour la 2e journée consécutive et la Californie est devenue le premier État à atteindre les 600 000. L'administration Trump a annoncé la distribution gratuite aux Américains d'un vaccin dès que son autorisation sera faite. En Amérique centrale, le président mexicain a assuré que le vaccin anglo-suédois AstraZeneca sera prêt dès le premier trimestre 2021. En Europe, face à une nouvelle hausse des cas, le Royaume-Uni impose une quarantaine à l'arrivée de certaines régions de France où la situation continue de se dégrader. L'Espagne referme les discothèques et interdit de fumer dans la rue à moins de 2 mètres. La Nouvelle-Zélande a prolongé le confinement à Auckland. À l'inverse, la Corée du Nord lève le confinement à Kaesong, une ville à la frontière, après un cas suspect. Et Pyongyang affirme toujours ne pas avoir enregistré de cas sur son territoire.
L'annonce d'un accord pour la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël suscite de nombreuses réactions. Les alliés d'Israël s'en félicitent, tandis que les réactions sont mitigées dans le monde arabe. Mohamedou Oumfa.
Pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, cet accord marque une nouvelle ère dans les relations entre Israël et le monde arabe. Même son de cloche aux États-Unis. Il s'agit d'une percée spectaculaire, a commenté le président Donald Trump. Les États-Unis espèrent que ce pas audacieux sera le premier d'une série d'accords clôturant 72 années d'hostilité dans la région, a appuyé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Par contre, l'accord est dénoncé par les Palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a demandé une réunion d'urgence de la Ligue arabe afin qu'elle se prononce sur ce que le Hamas qualifie de trahison d'un pays arabe. Une stupidité stratégique qui renforcera l'axe de la résistance, a réagi le ministère iranien des Affaires étrangères. La Turquie menace de suspendre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. L'ONU préfère rester prudente. Son secrétaire général, Antonio Guterres, espère que l'accord pourra créer une occasion pour les dirigeants israéliens et palestiniens de reprendre des négociations substantielles débouchant sur une solution à deux États.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
Le gouvernement guinéen, à travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, a lancé jeudi le plus grand programme de transfert monétaire en Afrique pour les populations pauvres et vulnérables. L'opération va concerner globalement 240 000 ménages, soit 1,5 million de Guinéens. Chaque ménage recevra mensuellement pendant une première phase de 6 mois la somme de 250 000 francs guinéens. La Guinée doit tenir le 18 octobre une élection présidentielle. Plus d'un quart des travailleurs nigérians sont au chômage au deuxième trimestre d'après le Bureau national des statistiques dans les premières données sur le chômage publiées depuis 2018. Le taux de chômage s'est établi à 27,1% au deuxième trimestre. Il s'élevait à 23,1% dans le précédent rapport qui remonte au troisième trimestre 2018. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 34 ans est le plus élevé, soit 34,9%. En République démocratique du Congo, les bons du Trésor public lancés le 11 août 2020 sur le marché financier intérieur n'ont ramené que 10 milliards de francs congolais estimés à 5 millions de dollars américains pour la deuxième tranche de cette opération. Le gouvernement espérait lever 17,5 millions de dollars américains, d'où une réalisation de 28,75%.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Toby Junior était parti en Chine pour des études, mais l'attaquant ivoirien a décroché son premier contrat de footballeur professionnel à l'âge de 25 ans, rejoignant le mois dernier Jiangxi Liangsheng en Ligue 1 chinoise. Il a brandi fièrement son contrat de 6 mois. Le périple de junior de l'Afrique de l'Ouest à la Chine n'a pas été facile, ponctué notamment par un procès avorté en Grèce et un passage en Angleterre. Selon son récit, Junior a quitté la Côte d'Ivoire pour la Chine en 2014 pour apprendre la langue et étudier tout en poursuivant son rêve de devenir footballeur, ce qui est maintenant un fait. L'ex-dirigeant du club de rugby de Toulon, Mourad Bouyelal, candidat au rachat de l'Olympique de Marseille avec Mohamed Haroudji, a indiqué ce vendredi qu'il se mettait en retrait de l'offre tant que les deux communicants de l'homme d'affaires franco-tunisien restaient associés au projet. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le projet, nuance toutefois l'ancien président du rugby club toulonnais proposé pour prendre la présidence du club en cas de rachat, une hypothèse toutefois maintes fois écartée par la direction de l'OM qui martèle depuis des mois ne pas vouloir vendre. Les victimes présumées et des témoins des viols qui auraient été commis par le président de la Fédération haïtienne de football font l'objet de menaces alors que la suspension provisoire du dirigeant arrive à terme, dénonce vendredi Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits humains indique dans un communiqué que les témoins avaient reçu, je cite, des promesses de grosses sommes d'argent ou d'emploi en échange de leur silence, fin de citation, et que des hommes armés auraient été, je cite, envoyés pour surveiller leur maison ou leur lieu de travail. Des hommes non identifiés se sont présentés au domicile d'un témoin en Haïti alors que personne n'était présent et ont commencé à tirer sur la maison et à la piller, précise Human Rights Watch, selon des jeunes filles citées dans un article publié fin avril dans le journal The Guardian. Yves Jean-Bart, 72 ans, président de la Fédération haïtienne de football, aurait violé de nombreuses jeunes mineures ces dernières années. Et puis pour terminer, Paul Pogba veut prolonger à Manchester United. L'avenir du français au sein du club anglais sera évoqué après la Ligue Europa.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Des heurts ont eu lieu hier à Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire entre forces de l'ordre et manifestants. Au moins 4 personnes sont mortes dans ces violences liées à la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre. Éric Manirakiza a joint le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikawe, directeur de campagne d'Henri Conan Bédier.
Il y a eu une défaillance de l'État qui n'a pas encadré les populations qui manifestent pacifiquement aux mains nues, arguant qu'aucune information ni demande n'avait été faite. C'est tout à fait faux. Depuis le 10 août, la société civile qui organisait la manifestation s'est mise en règle. Donc les gens n'ont pas dit la vérité. Et des personnes, des miliciens se sont introduits pour blesser des personnes. Il y a eu beaucoup de blessés, surtout 4 morts. Deux à Daouko, un à Bonoua et puis un autre dans une zone. Donc, et c'est surtout pas les élections, c'est le fait que le président de la République veut briguer un troisième mandat qui pose problème. Et également la mauvaise conduite du processus électoral par la commission électorale indépendante. D'ailleurs, nous avons demandé la démission du président de la commission qui a été incapable de faire une bonne liste électorale et également l'audit international de la liste électorale 2020.
Si vos doléances ne trouvent pas satisfaction, est-ce que le PDCI n'ira pas aux élections?
Non, mais dans tous les cas, si on doit faire les élections, nos doléances vont avoir satisfaction, d'autant plus que la Cour africaine des droits de l'homme qui a eu à statuer sur la commission électorale indépendante donne des recommandations. Et ce sont des ordonnances plutôt qui doivent être exécutées avant toute élection. Donc si le gouvernement s'entête et n'exécute pas les ordonnances, il n'y aura pas d'élection.
C'est-à-dire?
Sinon, nous sommes prêts à aller aux élections. On demande seulement à l'État de Côte d'Ivoire d'exécuter les ordonnances et de mettre la commission électorale en jour comme demandé par les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a pris un arrêt le 15 juillet dernier.
Oui, vous demandez notamment au président Ouattara de renoncer à sa candidature, mais s'il la maintient, il devrait être investi par son parti bientôt.
Être investi par son parti n'avait rien dit en matière de candidature. Il y a des recours, donc la population veut marcher, veut protester dans les voies légales, démocratiques et constitutionnelles pour l'amener à renoncer à cela. Même s'il est investi par son parti, ça n'a aucun sens.
Est-ce que la Côte d'Ivoire risque une autre crise?
Ça dépend du président Alassane Ouattara. S'il ne retire pas sa candidature, il y aura une crise. D'ailleurs, la crise est là. Il y a des morts d'hommes. C'est déjà une crise. On est en pleine crise préélectorale. Vous me donnez l'occasion de noter notre surprise devant le silence assourdissant de la communauté internationale. Parce que avant, quand les autres étaient au pouvoir, pour moins que rien, la communauté internationale avait déjà réagi. Donc, c'est un mauvais signal que la communauté internationale passe à la population par son mutisme.
Maurice Kakou Guikawe, secrétaire exécutif du PDCI d'Henri Conan Bédier, était joint à Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, 33 personnes sont décédées lors des inondations causées par les fortes précipitations qu'enregistre le pays ces dernières semaines. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des actions humanitaires, OCHA, a annoncé d'importants dégâts. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La dernière situation des dégâts causés par les inondations a été donnée par le ministère chargé de l'action humanitaire, Madame Mariama Oumarou Dangala Dima, directrice des secours humanitaires.
À la date du 10 août, nous avons au plan national 10 630 ménages sinistrés, avec donc 88 772 personnes sinistrées. Malheureusement, on déplore 33 pertes en vies humaines. Suite aux noyades et au choc des maisons effondrées. Donc, comme maisons effondrées, nous avons 9112 maisons à date. Nous avons enregistré des dégâts sur le plan de l'élevage avec 363 gros ruminants, 2092 petits ruminants. Nous avons des classes effondrées. Nous avons la situation des mosquées. Nous avons la situation des greniers endommagés, jusqu'à plus de 300 greniers. Nous avons des puits endommagés, des champs et des aires de culture.
Presque toutes les régions du pays sont concernées par ces inondations. La capitale Niamey reste cependant plus exposée avec la montée inquiétante du niveau des eaux du fleuve. Mohamed Al-Husseini, directeur de l'hydrologie au ministère de l'Hydraulique.
À la date du 12 août 2020, donc la crue a atteint et dépassé le seuil critique qu'on appelle la cote d'alerte rouge au niveau de la station hydrométrique de Niamey. Donc, en tout cas, les niveaux sont en train de monter très, très rapidement. Hier matin, on était à 630 cm. Et hier, vers 16h, la station automatique de Niamey nous a transmis les données. On était à 635 cm. Donc, le niveau est en train de monter très, très rapidement. C'est des niveaux jamais observés par le passé. Même en 2012, qui était l'année la plus humide ces 50 dernières années, on avait eu 618 cm. Donc en ce temps, on n'avait pas les digues qui sont en amont du coin Kennedy. Il y a urgence, quand on dit que l'alerte est rouge, donc il y a urgence vraiment d'évacuer toutes les zones inondables.
Rappelons qu'en 2019, à la même période, plus de 200 000 personnes ont été impactées par les inondations causées par les fortes précipitations, avec une soixantaine de décès. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La République du Congo célèbre samedi le 60e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, plusieurs acteurs de la vie du pays font le point des actions posées durant ces 60 dernières années et tentent de se projeter vers l'avenir. Un reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Pendant 60 ans, l'action politique a largement influencé la vie du pays. Par exemple, l'accession au pouvoir de différents présidents a occasionné des violences politiques. L'universitaire Vivien Manangou, qui est constitutionnaliste, explique pourquoi pendant longtemps les constitutions n'ont pas été respectées.
Ce sont les acteurs politiques qui appliquent la Constitution. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait toujours de la violence dans l'accession au pouvoir. Dès le départ de l'indépendance du Congo, la violence est inscrite dans les phénomènes politiques. Et la Constitution n'a pas été capable de régler ce problème-là.
En 60 ans d'indépendance, la culture est demeurée parent pauvre dans toutes les initiatives de développement au Congo. L'ancien commissaire général du FESPAM, Festival panafricain de musique, Hugues Ondaye, par ailleurs opérateur culturel, fait le point.
Culturellement parlant, le Congo se cherche, le potentiel est là, donc l'on change de paradigme pour aller vers une autre approche et qui consisterait à placer la culture quand même au cœur des préoccupations et au cœur du développement de notre pays.
L'économie aurait été, durant ces 60 dernières années, impactée soit par des choix politiques,
soit par la qualité de la dépense. Le statisticien et ancien ministre Clément Mirassa tire les leçons de cette gouvernance économique.
Et si nous avons fait partir le président Youlou en 1963 sous le prétexte de la corruption, aujourd'hui elle atteint un niveau intolérable et inacceptable. Il est difficile de rechercher le développement et de tolérer la corruption.
Pour l'ancien ministre des zones économiques spéciales Alain Akwala, il y a bien du bon dans tout cela. Des expériences qu'il faut capitaliser dès la prochaine décennie.
Eh bien, je crois que pour ce 21e siècle et les 60 prochaines années, le Congo peut engager un projet que je considère extraordinairement fédérateur et réalisable, c'est la construction d'un canal Congo-Océan qui relierait le fleuve Congo à l'océan Atlantique. Ça permettra non seulement à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui d'avoir une espèce de vision positive de l'avenir, susciter une espèce d'espoir par rapport à l'avenir, pour qu'ils aient le sentiment que le pays va vers une nouvelle direction.
Et l'historien Théophile Obenga estime qu'il est temps de lancer le pays vers le développement.
Il faut lancer le pays par des grands projets extrêmement grands, plus grands que nous, et non faire des petits points qui n'avancent pas.
Ce soir, le président Denis Sassou Nguesso s'adressera à la nation. Demain samedi, une courte cérémonie mais particulière sera organisée pour célébrer les 60 ans de l'indépendance de la République du Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Retour sur l'annonce jeudi par le président américain Donald Trump de la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Dans une déclaration conjointe, M. Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Mohamed Al-Nayan, prince héritier d'Abu Dhabi, ont dit espérer que cette percée historique fera progresser la paix au Moyen-Orient. Patsy Widakuswara, correspondante à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de John Linton.
Les musulmans émiratis pourront bientôt prier dans la célèbre mosquée Al-Aqsa de Jérusalem après l'annonce de la normalisation des relations entre leur pays et Israël. À la Maison Blanche, le président Donald Trump s'en est réjoui.
Maintenant que la glace est brisée, je m'attends à ce que davantage de pays arabes et musulmans suivent l'exemple des Émirats arabes unis.
L'accord avec les Émirats arabes unis, accord d'Abraham, selon la Maison Blanche, est le troisième conclu par Israël avec un pays arabe depuis sa création en 1948. Avant cela, il y a eu ce signé avec l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé hier de journée historique, un sentiment que partagent les responsables de l'administration Trump, Robert O'Brien, conseiller à la sécurité nationale.
Cela ne me surprendrait pas si le président était finalement nominé pour le prix Nobel.
Concernant l'importance de cet accord, William Tubman, du Centre d'études stratégiques et internationales, émet un léger bémol.
Pour ce qui est d'un pas vers la paix régionale, je pense que c'est un peu exagéré. Il n'y a jamais eu de menace de conflit entre Israël et les Émirats arabes unis. Mais c'est le premier État du Golfe à normaliser ses relations avec Israël. Et cela va ouvrir beaucoup de nouvelles possibilités pour les deux pays.
Dans le cadre de cet accord, Israël a accepté de suspendre toute nouvelle annexion de terres palestiniennes en Cisjordanie. Selon les analystes, cesser les annexions profite stratégiquement à Israël, car il ne va pas absorber un nombre significatif de Palestiniens contre leur gré. William Ouchler, du centre Rafik Hariri pour le Moyen-Orient.
Cela met Israël sur le long terme dans une position terrible à choisir entre son identité juive ou son identité d'État démocratique libéral. C'est une situation où aucun ami d'Israël ne souhaiterait le voir sur le long terme.
L'accord vise à isoler davantage une autre puissance régionale, l'Iran. Les États-Unis tentent de faire adopter une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger l'embargo sur les armes contre Téhéran qui expire en octobre prochain. La Chine et la Russie ont indiqué qu'elles vont y mettre leur veto. Si la résolution ne passe pas, le secrétaire d'État Mike Pompeo menace d'invoquer l'option snapback qui rétablirait toutes les sanctions contre l'Iran. Et que signifie l'option snapback sur l'Iran? Le président Trump n'a pas voulu entrer dans les détails.
Nous n'allons pas vous en parler. Nous allons travailler sur quelque chose et ensuite nous parlerons une fois que ce sera terminé. Mais ce sera très satisfaisant.
M. Trump a déclaré que les Émirats arabes unis et Israël se joindront aux États-Unis dans les prochaines semaines pour signer officiellement cet accord, ici même à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez suivre l'actualité en continu sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. Très bon week-end à toutes et à tous.